Aujourd'hui, c'est la seconde partie du retour d'expérience de mon invité. Quant au passage de formation et de certification cyber, cette fois-ci plus axé sur le financement des formations, le business des renouvellements et plus. Mon invité est de nouveau Paul Varela, expert cyber dans le domaine du spatial. Bienvenue sur mon podcast Cybersécurité All Day. Je suis Mickaël Virgon, le créateur de celui-ci. J'espère que vous apprécierez le contenu aujourd'hui. Merci. On parlait beaucoup de CISSP. Tu mentionnes aussi au début en préparation du podcast des différentes formations OSCP, la CISMP pour les techniciens et aussi les certifications du sens notamment.
Oui. Alors, il y en a plusieurs. Alors, je ne les ai pas toutes faites et je ne ferai pas une liste exhaustive.
Oui, oui.
Et donc, tu vas avoir plutôt des formations donc type généraliste, donc CISSP, CISM qui vont être donc pour tout ce qui va être Security Manager, la CRISC dont je parlais qui va être plutôt sur les risques. Tu vas avoir tout ce qui va être les certifications sur les normes ISO. Donc, j'ai beaucoup de personnes n'aiment pas forcément les normes. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, ça peut te faire rire, mais la première fois que j'ai passé une formation sur une norme ISO, je suis arrivé et je connaissais pas du tout ce milieu-là. Et les gens, ils parlaient d'un nombre de normes énormes. C'était, ah oui, bah, moi, j'ai la 27005, moi, j'ai la 27035, moi, j'ai la 27001. J'étais complètement perdu. Et en fait, j'ai découvert un monde assez passionnant parce que quand tu cherches à découvrir un sujet et que tu sais pas, pareil, je te parlais de langage commun. Et ben, en fait, juste ouvrir la norme, ça peut être parfois un peu rébarbatif, mais ça permet de, justement, découvrir de quoi on parle et donner des bases. Pour en revenir sur la liste des certifications, donc après, tu en as aussi des plus techniques. Donc, tu peux avoir l'OSCP, je pense que c'est une des plus reconnues dans le milieu du pentest, avec OSCP, OSCE. Tu as aussi donc les CEH, les CompTIA, avec la pentest plus. Donc, tu as vraiment plusieurs familles. Et après, il y a aussi les SENS. Donc, elles ont toutes leurs spécificités avec des contenus qui peuvent être publics ou non, avec des coûts qui vont être différents également, et aussi des prérequis qui vont être techniques, mais aussi le temps qui va être nécessaire pour les passer et les conditions. Je vais donner un exemple. Pour moi, la CISSP, c'était facile de la préparer en termes de logistique parce que je pouvais justement morceler mon temps d'apprentissage. Une OSCP, il faut vraiment avoir son environnement et tu peux pas faire 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là. Il faut que tu aies ton lab et que tu puisses le préparer. Après, il faut aussi voir autre chose, c'est qu'il y en a de plus en plus des formations initiales intègrent des contenus de préparation aux certifications dans leur cursus. Et donc, par exemple, on a des personnes qui, de par leurs études, ils préparent l'OSCP. Comme ça, dès qu'ils sortent d'école, hop, ils ont une OSCP parce que finalement, quand on veut devenir pentester, l'OSCP, c'est quand même un bon gage de confiance. Et donc, l'avoir passé, par exemple, dans le cadre de ses études, ça permet de dire, j'ai une connaissance. C'est pareil aussi, toutes les plateformes qu'il peut y avoir sur le pentest qui est accessible sur Internet. Dire qu'on a un certain ranking sur ces plateformes, ça atteste aussi d'un certain niveau. Il y a un point, si tu veux bien, sur lequel je voulais qu'on revienne brièvement. Oui. C'était à la fin d'une formation, tu peux passer parfois la certification directement et parfois t'as besoin d'un travail plus personnel à fournir. Et c'est vis-à-vis aussi donc de l'entreprise parce qu'on va donc parfois te payer une formation. Donc des personnes vont à la formation en se disant j'ai 5 jours, j'y vais et puis à la fin j'ai mon papier. Et en fait non, c'est derrière il y a un effort personnel à fournir. Et j'ai vu pas mal de personnes dans mes connaissances qui, finalement, ils allaient à la formation et puis derrière, ils se laissaient rattraper par leurs obligations au quotidien et ils le passaient pas. Et je trouve que ça revient, en fait, au début sur pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est toi qui l'as proposé? Est-ce qu'on te l'a imposé? Et notamment, on en revient aussi à un concept que je trouve important, c'est les formations, notamment en entreprise. Je trouve que c'est quelque chose qui se mérite entre guillemets, mais c'est pas forcément un dû. C'est-à-dire que il faut réussir à convaincre que elle est nécessaire, convaincre l'employeur, mais aussi soi-même qu'on va aller jusqu'au bout. Parce que sinon, il y a quand même un coût derrière qui est assez important souvent d'ailleurs pour l'entreprise ou parfois juste pour soi. Et donc, faut être certain qu'on va aller jusqu'au bout.
Et c'est un point super important que tu as mentionné, auquel je n'avais pas pensé. Donc pour le coup, je n'avais pas de question précise, mais maintenant je l'ai. C'est que tu as dit effectivement que tu as dit des fois c'est toi qui l'as fait ou des fois on te l'impose.
Ça m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que il y avait un besoin particulier donc dans mon travail, il y avait besoin de passer une certaine certification et j'ai eu aussi entre guillemets une contrainte de résultat, c'est-à-dire que c'est bon ben il faut absolument que tu l'aies pour telle date parce que c'est une contrainte client entre guillemets et donc derrière ben il faut t'as pas le droit de te rater donc voilà faut mettre les ça peut apporter un certain niveau de stress donc c'est aussi donnant donnant parce que quand c'est imposé l'avantage c'est qu'en règle générale ben elle va être financée on va t'aménager du temps potentiellement pour la passer par contre tu peux avoir une obligation de résultat alors que quand c'est toi qui la propose ou qui l'a fait par aussi sur tes propres ressources là ça va être parfois plus difficile de se trouver du temps de la motivation la rigueur qui va avec etc.
Ouais. Et bon, moi, je suis plein de métaphores, ce genre de choses, hein, mais ça me fait penser à un truc, ce que tu viens de dire à l'instant, quand tu parlais notamment, ça apporte du stress. Je sais pas si tu connais l'entraîneur mental, je crois, de Michael Jordan. Il s'appelait Tim, j'ai oublié son nom, Tim quelque chose. Et le mec, il a dit en anglais, « Pressure is a privilege ». Dans le sens où des fois, au final, et c'est vrai, hein, admettons dans ce sens-là, par exemple, on peut se dire, admettons ton employeur t'envoie à toi en formation, en certif, donc t'as la pression. Mais des fois, c'est aussi des fois qu'ils comptent sur toi, justement, de réussir à la passer quelque part. Parce qu'en plus, si t'as un objectif de, comment dire, une nécessité d'atteindre l'objectif, ça peut être vu aussi dans les deux sens.
Ça peut être dans les deux sens. Et donc, il y a plusieurs choses. Déjà, donc, le stress, comment le combattre. Et puis aussi, parfois, on va se dire, ah non, mais je suis pas prêt, je vais pas la passer. Il y a un aspect très pratique, c'est important de se poser un ultimatum, se mettre une date et de se dire, voilà, il faut que je passe mon examen. Et après, on va construire le plan. Sinon, on va toujours repousser. Donc là, c'est plus sur la partie passage de l'examen. Après, sur la partie imposée ou est-ce que c'est toi qui le propose, il y a une dérive, je trouve. Et c'est quelque chose que je pense qu'on peut approfondir. Mais c'est trouver le compromis entre passer donc une formation et la certification, je fais exprès de séparer les deux, je vais t'expliquer pourquoi, et donc réussir à convaincre son employeur, se convaincre soi-même aussi qu'on peut y arriver, mais c'est que souvent c'est perçu comme tu passes une certification parce qu'en fait tu es en train de préparer ton après, c'est-à-dire que tu passes la CISSP parce qu'en fait tu vas essayer de te vendre plus cher à un autre employeur.
Ouais.
Et ça, je trouve que c'est très important d'établir une confiance avec son employeur, c'est-à-dire que c'est donnant-donnant, c'est-à-dire que il y a des formations notamment qui sont assez chères et ça va être parfois aussi du respect vis-à-vis de ses collègues, de dire si on a une formation qui va être très chère, parfois ça va être au détriment d'autres personnes, donc faut aussi respecter son entourage, dire pourquoi on va passer cette formation, que ce soit un peu une évidence des deux parties, de dire ça c'est nécessaire pour l'entreprise, pour moi, et puis je vais pas vous lâcher au bout de 2 mois, parce que sinon les entreprises mettent en place des mécanismes entre guillemets de défense. Soit ils disent je te paye que la formation, la certif, on te la paye pas parce que sinon tu vas partir ailleurs. Ou il y en a d'autres qui disent d'accord, on te la paye, mais si tu pars dans X temps, en fait tu rembourses. Donc c'est pour ça je pense que cet aspect de confiance il est important à établir.
Ouais. Un point, du coup, je vais revenir sur les questions initiales. On l'a pas encore abordé, mais le business des renouvellements.
Ouais.
C'est ce que tu me disais, que ça, c'est un gros business. Alors, tous les crédits pour les maintenir. Et d'ailleurs, tu m'as même dit, tu m'as dit que souvent, les frais de maintenance, c'est là le vrai business. Enfin, du moins, pour les organismes de formation.
Ouais. Alors, c'est aussi, d'ailleurs, quand on parle de, donc, justement, le renouvellement, quand on se pose la question, est-ce que je veux passer la certification? Et encore une fois, cette distinction entre formation et certification, est-ce que finalement, on n'a pas juste besoin de faire la formation? Comme ça, tu vas avoir une nouvelle compétence, mais sans avoir le tampon, parce que derrière, il faut le maintenir, il faut le payer, il faut avoir des crédits. Ou est-ce qu'au contraire, tu veux avoir le tampon à la fin, cette certification? Donc déjà, ça, c'est une question à se poser, si je fais que la formation ou la certif. Parce qu'en effet, derrière, ça va être un coût. Et plus on en a, plus ça va être cher. Et on, notamment le lien avec l'entreprise, c'est est-ce que c'est toi qui vas devoir le payer ou est-ce que tu vas réussir à négocier avec ton employeur pour que ce soit lui qui paye le coût récurrent? Parce que ça, c'est assez cher en fonction des organismes. En plus, parfois, tu as le maintien de la certification, mais tu as aussi l'adhésion à une communauté de la certification en elle-même. Donc, parfois, tu as d'autres coûts cachés. Donc, ça peut revenir en effet assez cher. Mais pour en revenir à ce que tu disais, en effet, il y a des, tu vas avoir un business qui va être la formation, qui va être one shot. Donc, une fois que tu as formé quelqu'un, bon, bah, il a eu la formation, il va pas la refaire plusieurs fois. Et après, tu as justement le business du renouvellement. Et parfois, il y a des entreprises qui vont venir rendre accessibles les formations pour justement après parier plutôt sur le business du renouvellement. Parce que, ben, des organismes sont plus ou moins laxistes là-dessus, mais en général, ils font attention que une personne qui a pas payé son renouvellement, ben, il ne puisse plus mettre en avant le fait qu'il est certifié. Et dans ce cas-là, ben, si tu veux le mettre en avant sur notamment ton LinkedIn ou autre, ben, faut que tu payes chaque année, etc.
Ouais. Et justement, toi qui as passé beaucoup de formations, comment est-ce que tu décides de toi de renouveler ou pas une certif? C'est quoi un peu tes critères?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la reconnaissance et si elle est plus ou moins reconnue, appréciée dans la communauté et aussi par les employeurs ou autres. Donc, la crédibilité, en fait, de cette formation. Donc, il y en a, tu vas chercher à maintenir. C'est aussi les efforts que tu as mis à les avoir. Donc, quand tu sais que tu pourras plus ou moins facilement la repasser si jamais tu en as vraiment besoin, bon, tu peux éventuellement la laisser s'expirer et tu le laisses. Ou il y en a d'autres, pour le coup, ben, t'as pas forcément envie de repasser par tout le chemin de croix et de faire les examens. Donc, tu vas la maintenir. Donc, voilà, il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc, il y en a certaines. En effet, je les ai laissées s'expirer. J'étais content de m'être challengé, d'avoir appris quelque chose de nouveau, d'avoir réussi l'examen. Mais après, j'ai pas éprouvé le besoin de la maintenir, notamment parce qu'en fait, j'en avais plus besoin dans mon contexte professionnel. Et donc, je l'ai laissé s'expirer.
Et là, ça me fait penser, toi qui passes beaucoup de formations, j'imagine que forcément, tu vas pas te jeter direct dans une formation si t'as pas fait tes recherches avant. Mais du coup, est-ce que ça vient sûrement du coup comme t'es arrivé des fois d'arrêter une formation en plein milieu, même si admettons tu l'as payé déjà, parce qu'au final c'est mieux de perdre l'argent que t'as investi dans la formation que le temps que t'aurais passé dessus, j'imagine.
Complètement. Alors, disons que ça c'est quelque chose que je me pose à chaque fois, c'est est-ce que je suis donc quel est le. Je me renseigne beaucoup sur donc le type de formation, le prix, comment je dois la passer, parce qu'il y en a, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller par exemple suivre une formation chez le fournisseur, on peut pas les passer en candidat libre. À chaque fois, je me pose la question, c'est quel est le format? Est-ce que je peux l'apprendre moi-même? Est-ce que c'est faisable? Combien de temps ça va me prendre? Est-ce que les supports sont accessibles, etc. Donc, toute la partie logistique, le temps que ça va me prendre, est-ce que j'ai la motivation? Et si je valide tous ces points-là, je vais me lancer. Et il y en a, en effet, où finalement, j'ai arrêté au milieu parce que ben, soit en fait je trouvais que c'était trop le contenu était trop bateau ou il y avait de la redite ou finalement je me rendais compte que voilà c'était pas approprié. Donc en règle générale, je suis toujours allé jusqu'au bout, mais il y en a que j'ai mis de côté parce que du temps à préparer une formation, c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose. Et donc il peut y en avoir d'autres justement qui sont plus appropriés.
Ça me fait penser, admettons, tu lis un livre sur un sujet que tu connais bien. Tu lis un livre, tu lis deux livres, trois livres. Puis le livre suivant, tu dis, mais en fait, c'est le même contenu que je connais déjà, et au final, c'est plus une perte de temps de continuer à le lire, même si j'ai payé le bouquin, que continuer à à passer du temps dessus. Donc c'est vrai que ouais, c'est...
Par exemple, tu vois, on en parlait tout à l'heure, passer une CISSP et la CISM, c'est au final, il y a eu pas mal de redites, j'ai fait d'abord la CISSP et la CISM après, et clairement, il y a des chapitres que j'ai sautés parce que c'était vraiment de la redite. Donc, je les lisais plus en diagonale pour vraiment aller me focaliser sur des aspects où il y avait vraiment une plus-value. Après, c'est ça aussi, ça fait partie de la recherche en amont, de se dire, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir du temps, de l'argent à la préparer, mais aussi après à la maintenir. Donc, voilà, tout ça, ça fait partie de la recherche.
Et j'essaie de réfléchir, des questions sous différents angles, notamment l'angle entre guillemets temporelle, mentionnée au départ, hein, quand tu parlais, tu sais, des formations que l'entreprise peut te payer, et forcément, ils veulent pas, mettons, que te former, entre guillemets, pour que toi, tu te barres ailleurs et t'en serves ailleurs. Du coup, ça me faisait penser en termes, justement, de vision à long terme, parce que forcément, plus, encore une fois, je suppose que ça dépend en plus, hein, ta seniorité. En général, le plus senior tu es, hein, le plus t'as une vision à long terme. Et j'imagine qu'il y a des fois, t'as des formations, elles sont plus, entre guillemets, utiles sur du court terme, ou là, maintenant, tout de suite. Et d'autres qui vont être plus, quelque part, tu prépares un peu le futur.
Bah, disons que ça fait partie du parcours aussi que tu cherches à avoir. Il y en a qui vont être très, très spécifiques. Par exemple, si tu veux faire du reverse engineering sur un certain composant très particulier, bon, bah, t'as un certain nombre de prérequis. Et si tu les as pas au préalable, t'as besoin de monter en compétences et passer un certain nombre d'éléments avant de pouvoir aller viser cette expertise bien particulière. Donc, tu peux avoir cet aspect-là. Après, je pense aussi qu'il y a une notion de plafonnement à un certain moment. C'est-à-dire que il y a beaucoup de formations avec un certain niveau d'expertise. Ça peut être de la gouvernance ou technique. Parfois, on peut aussi se retrouver à plafonner dans un certain domaine au niveau cybersécurité. Et là où je pense, ce qui peut être intéressant, ça va être aussi d'aller explorer des domaines transverses qui peuvent servir à la cybersécurité. Je vais prendre un exemple. Le machine learning. J'ai fait par exemple justement j'ai passé une certification sur le sujet parce que je me suis dit, bah tiens, comment le machine learning ça marche et comment ça pourrait derrière m'aider ou comment ça pourrait contribuer à la cybersécurité. Tu vois, c'est parfois tu peux te dire, je vais élargir le champ des possibles en allant voir un petit peu d'autres domaines pour voir comment ça peut venir contribuer à la cybersécurité.
Puis encore pareil, hein, pour revenir un peu à cet aspect temporel. Du coup, tu as aussi, j'imagine, une question de timing.
Disons que pour moi, la question, c'est bon, déjà en effet cette partie planning, mais après, il y a aussi tout simplement, est-ce que ça va être la prise en charge, est-ce que ça va être toi ou ton entreprise? Et ça va être important parce que pour réussir à convaincre une entreprise de payer un certain montant de renouvellement, ben, il faut qu'elles y voient un intérêt. Si en fait, tu as plein de certifs sur un domaine particulier et c'est pas du tout ce pourquoi ils t'ont recruté, ils vont te dire, bah non, désolé, je vais pas forcément payer le renouvellement. Donc, il y a aussi ça dans ta stratégie, c'est de te dire, tu peux, par exemple, collectionner un certain nombre de certifications et les maintenir, très bien.
Ouais, c'est ça.
Mais bah, derrière, il faut pouvoir, donc comment tu les finances? Est-ce que c'est toi qui le fais à titre personnel? Est-ce que tu vas le faire dans le cadre de ton entreprise, mais il faut les convaincre? Est-ce que tu les laisses s'expirer? Et après, quand on parlait aussi financement, je rebondis sur un autre sujet, mais alors il y a beaucoup de gens en France qui se font appeler tous les jours pour les CPF, mais ça peut être aussi une façon de financer ces formations, c'est de se dire, ben, est-ce qu'il n'y a pas aussi des aides ou autres qui permettent de m'aider à financer tout ça. Non, sachant qu'il y a aussi un point que je voulais aborder, c'est que la façon de passer une formation, tu as plusieurs formats. Tu peux donc dans un centre de formation, être en présentiel. Il y a des personnes qui ont besoin de ça, qui ont besoin de couper le téléphone, couper les emails pendant une semaine, te dédier vraiment à ça. Tu vas dans un centre et tu fais que ça pendant une semaine. Il y en a d'autres qui préfèrent s'organiser, avoir des modes asynchrones, mais avoir un contenu bien spécifique. Il y en a qui sont plus sur l'auto-formation, dans le cas de MOOC ou en lisant tout simplement un bouquin. Et ça, je pense que si ça fait partie de sa démarche, sa réflexion au préalable, en se disant, quel est mon profil, mais aussi quel est mon budget. Parce que une formation, surtout si on la paye soi-même, ça a un certain coût quand on va dans un centre. Parfois, en plus, si on fait du présentiel, ben, il faut aller sur place, il faut payer le logement. Pendant qu'on fait la formation, ben, on n'est pas payé à faire autre chose. Donc, tout ça, c'est des coûts, entre guillemets, cachés. Et parfois, s'auto-former en prenant un bouquin, ça peut suffire. Donc, en fonction du type de formation qu'on cherche et aussi ben, des conditions, parce qu'il y en a où toutes les ressources sont pas forcément publiques, eh bien, on peut avoir une stratégie de formation et surtout se libérer du budget parce que, ben, un bouquin, ce sera beaucoup moins cher et ça permet de se dire, telle formation, je vais la passer moi-même en achetant le bouquin et peut-être que je vais négocier avec mon employeur juste le passage de l'examen. Ça montre aussi une motivation. Et l'autre, par contre, qui coûte plus cher, ben, je vais essayer de négocier un présentiel.
Ouais. Et encore une fois, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à une question. C'est que là, tu parlais de négociation. Donc, ces négociations est d'accord financière, mais quelque part, tu as aussi des négociations, entre guillemets, avec ta famille, tes amis, ou admettons tu peux pas sortir, ou admettons il faut que tu restes, voilà. On est d'accord, hein,
c'est complètement. Et tu vois, c'est depuis tout à l'heure on fait les analogies avec le sport. Je pense que c'est pareil. C'est que ben soit tu as du temps à consacrer à ça, par exemple, à ton travail, ou soit c'est ça peut être sur ton temps personnel. Et là, ben t'as intérêt à te mettre d'accord avec ton entourage et dire ben je vais avoir besoin de consacrer X temps à ça. Est-ce que tu es d'accord? Ou sinon, ben, ça va être se lever un petit peu plus tôt, se coucher un peu plus tard. Et ça peut être des sacrifices familiales et avec son cercle d'amis, c'est clair.
Et dans le document que tu m'avais partagé, hein, du post hein, que tu voulais écrire, là, je pense que tu ne l'as pas encore publié, hein, d'accord? C'est pas encore... D'accord.
Bah, il a l'air...
C'est pas un spoiler, mais c'est un scoop, on va dire. C'est un scoop. Non, mais dedans, tu avais marqué un chapitre, hein, que tu voulais appeler « Comment négocier le passage d'une certification ».
Oui.
Donc justement, bah, si tu peux en dire un peu plus par rapport à ça.
Ouais, justement, c'est ce qu'on commençait à aborder tout à l'heure. C'est en règle générale, alors je prends le cas de grandes entreprises, parce qu'après, si on est auto-entrepreneur ou autre, ça peut être des cas différents. Mais en tout cas, souvent, ces entreprises ont un budget dédié, il y a une moyenne de budget par personne qui peut être de l'ordre, je ne sais pas, par exemple, d'une centaine d'euros, plusieurs centaines d'euros, ça va dépendre de la taille de l'entreprise. Et après, ben, il faut s'adapter en se disant, ben voilà, comment je vais réussir à convaincre mon employeur de me payer parfois des formations qui vont être plus chères. Parce que quand on parle de formations techniques parfois reconnues, ben, on est plutôt sur des formations à plusieurs milliers d'euros. Et donc on se dit, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais un peu de respect, parce que finalement, si l'employeur fait le pari, fait confiance à son employé et le dit, ben tiens, on va te payer cette formation, et parfois ça va être au détriment des autres, parce que dans un service, on va dire, ben, il y a une grosse formation dans l'année pour quelqu'un dans le service, et après, ben, faut déterminer pour qui. Et après, ça peut tourner, etc. Mais faut, donc il y a vraiment cet aspect confiance, et comment réussir à se dire qu'au final, c'est une évidence des deux côtés que oui, il faut que cette personne passe cette formation et potentiellement aussi la certification derrière. Et donc, sur cet aspect négociation, c'est de se poser la question, donc, pourquoi moi j'en ai besoin? Pourquoi l'entreprise en a besoin? Et aussi, au niveau financier, comment faire en sorte que ça rentre dans l'enveloppe? Donc, est-ce que ça va être plutôt essayer de convaincre pour une formation en présentiel, ou au contraire de dire, moi, un format que moi j'aime bien, c'est de dire, c'est mon temps, mais par contre, vous payez l'examen. Comme ça, ça monte une motivation, c'est de dire, je préparerai moi-même la formation sur mon temps personnel. En prenant le bouquin, ça va être à mes frais. Comme ça, pour moi, c'est pas très cher. Et donc, je montre que j'ai la motivation d'aller jusqu'au bout, parce que c'est mon temps personnel, donc ça m'impacte. Et derrière, par contre, si jamais j'arrive jusqu'au bout, vous me payez l'examen et le renouvellement. Donc ça, ça peut être un axe de négociation. Ça marche, ça marche pas, ça va dépendre du contexte et de l'environnement. Mais ça peut être un compromis pour justement après se libérer des possibilités sur des formations plus chères, et là dire, bon, là par contre il n'y a pas le choix, c'est que du présentiel avec les bouquins dédiés, il faut que j'y aille.
Ouais, en gros c'est tu viens avec ton business plan.
Exactement,
ton business plan de
et c'est ce que
c'est ça, c'est avec les problèmes sont ceux-ci, mais ce sont mes solutions,
et c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, une formation, et surtout les celles qui sont les plus reconnues, ça se mérite, et c'est pas forcément un dû. Parce que si les personnes prennent ça comme un dû, en fait, on va dire, ouais, non, mais c'est mon employeur doit le faire parce que ça fait partie des privilèges ou des avantages ou autres. Et donc, on y va, mais un peu avec une approche du c'est un dû et j'ai pas forcément besoin de faire des efforts. Et souvent, c'est ces personnes qui après vont à la formation et puis après vont pas aller jusqu'au bout. Ils vont pas préparer l'examen consciencieusement, etc., parce qu'ils avaient pas forcément cette motivation. Alors que quand on a fait l'effort de se dire, pourquoi la passer, convaincre la personne, convaincre aussi parfois son entourage, etc. Donc il y a toute une démarche personnelle. Et derrière, il y a plus de chances de succès.
Comme une question qui me démange, même si on arrive à la fin du podcast, là, parce que je suis commercial, j'aime bien les chiffres. Hein. J'aime bien les chiffres, je suis commercial. Tu me disais notamment qu'il y en a qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Encore une fois, c'est une question vague, parce qu'on est d'accord, ça dépend largement de la formation. Mais en gros, c'est quoi un peu, si on devait donner une fourchette, on est d'accord, ou un râteau, indépendamment des prix, c'est quoi un peu le râteau quelque part des prix et des formations?
C'est une bonne question.
Des formations et aussi des frais de maintenance.
Alors, c'est une bonne question. Je t'avoue que je n'avais pas forcément préparé cette partie-là avant. Donc, je dirais avec une fourchette. Mais tu vas avoir des formations. Alors, déjà, je parlais du CPF, etc. Tout à l'heure, ça peut aider. Il faut juste une petite parenthèse sur le CPF, mais que quand j'avais regardé, maintenant, ça change pas mal. Mais il y avait beaucoup. C'était principalement les formations ISO qui étaient dans les catalogues éligibles. Maintenant, il y a de plus en plus de formations qui commencent à être aussi éligibles CPF. Donc ça peut aider. Après, en règle générale, tu vas avoir des formations qui, même parfois un MOOC ou autre, donc il y en a des gratuites, il y en a qui vont être quelques centaines d'euros, il y en a qui vont être, je ne sais pas, pardon, je vais dire 1000 euros, mais les plus grosses, pour moi, c'est ce que souvent techniques qui sont assez reconnues, elles vont être par exemple autour de 5000 euros. Donc tu vois, on parle déjà de quelque chose de cher, mais surtout, c'est que derrière, ce que je te disais, c'est qu'il y a des coûts cachés parce que il y a la formation, mais souvent le package avec l'examen, c'est quelque chose à payer en plus. Et puis derrière, ben, il y a l'aspect logistique, notamment si on va sur place. Donc il faut le voyage, il faut le logement, il y a aussi le coût pour la personne et pour l'entreprise, parce que pendant une semaine, il faut te payer, t'es pas alloué sur un projet. Donc ça, c'est aussi un coût. Et à règle, ben, finalement, tu vas doubler. Et parfois, pour ce type de formation, tu vas arriver ben, à 10 000 euros. Et ça, c'est pas le même montant.
Peut-être une question bête, hein, je ne sais pas. Mais du coup, est-ce que des fois, tu as des formations, en tout cas des certifications, on va dire plutôt, où des fois, l'intérêt, c'est presque plus la communauté derrière à laquelle tu auras accès que véritablement la certif en elle-même?
Je pense que oui, il y en a où ça peut être le cas. En tout cas, la communauté ou juste le titre. C'est-à-dire que, par exemple, je pense que la CSSP, c'est un bon exemple. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça dans leur profil LinkedIn en disant on met le nom plus le nom de la certif à côté, ça aide pour les mots-clés, pour les chercheurs, pour les recruteurs aussi, pour pouvoir faire des filtres. Donc tu peux le passer pour les connaissances que ça t'apporte, mais aussi tout simplement pour le sigle que tu mets à côté de ton nom. Et après, il y en a vraiment qui vont être pour le contenu que ça va t'apporter technique. Il y en a certaines que j'ai passées. Franchement, si pour être honnête, si je devais résumer maintenant, j'ai retenu un certain nombre d'éléments clés qui ont marqué, mais j'en ai d'autres où ça reste une bible que je vais consulter régulièrement parce que le contenu était vraiment très poussé. Et en plus, quand je les maintiens, je reçois par exemple du contenu mis à jour. Et donc, ça me permet d'aller lire les nouveaux contenus et rester à l'état de l'art. Donc, c'est en fonction des formations et des objectifs, on va pas viser les mêmes choses. Mais c'est vrai qu'il y en a où ça va être plutôt pour l'aspect communauté ou reconnaissance de la certification. Et d'autres, ça va être vraiment pour le contenu que ça va apporter. Une OSCP, par exemple, je trouve que c'est intéressant parce que je suis pas certain que beaucoup de recruteurs connaissent comparé à une CISSP, l'OSCP. L'OSCP, donc, est très orienté pentest, très orienté technique. Quand on en parle dans la communauté, c'est, pour moi, je trouve que c'est très respecté. Quand quelqu'un dit j'ai l'OSCP, on se dit ouais, quand même, il a passé un certain nombre de temps à préparer, à être sur ses labs et à faire tous les challenges. Et donc, ça va être reconnu au niveau technique. Par contre, au niveau managérial et RH, ce sera pas forcément connu comparé à d'autres formations type PCSSP où parfois, justement, elles peuvent être plus dénigrées parce qu'elles sont plus généralistes, donc plus dénigrées par la communauté, mais plus reconnues par contre par les recruteurs et par un plus grand nombre de personnes.
Là, tu parlais de certaines des fois que c'est un peu, entre guillemets, ta bible, hein, celles qui t'ont apporté le plus, ou littéralement, toi, c'est celle que tu décides, ok, celle-ci, je la renouvelle.
Ok, alors, j'ai trois familles, entre guillemets. La CISSP, pour moi, elle est quand même incontournable, c'est ce que je te disais. Pour moi, c'est l'entrée. C'est-à-dire que si une personne connaît pas forcément, il a besoin d'un vernis, je lui dirais, prends celle-ci. Et en fait, régulièrement, donc quand j'ai préparé la certification, je me suis fait des fiches et je retourne régulièrement voir mes fiches quand je me pose une question. Ça donne parfois de l'historique, mais ça donne aussi des éléments techniques, des sujets du langage. Et comme ça, on peut s'y référer pour trouver même des définitions que tout le monde partage. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est plus parce que j'aime bien la partie standardisation, je te disais tout à l'heure, et les ISO, quand je les ai découvertes, pour moi, c'était intéressant. Donc, il y en a certaines que je maintiens parce que c'est mon travail de tous les jours. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire bah, que voilà, même si de par mon expertise, je pense que j'en aurais pas besoin, mais je trouve que c'est important de la maintenir. Il y en a d'autres que je maintiens pas. Mais ces normes ISO, pour moi, elles m'ont marqué parce que ça amène une certaine rigueur et un cadre assez théorique, hein, c'est clair, et académique. Mais c'est cette rigueur, je pense qu'elle est nécessaire. Et après, il y a la partie vraiment technique. Je pense que les plus reconnus, ça reste quand même les sens, même si elles sont très chères avec un modèle aussi américain. Il y a des alternatives qui se développent, notamment en Europe. Mais ça reste quand même, je pense, un peu la Rolls-Royce technique. Par contre, c'est là où c'est intéressant parce que pendant longtemps, donc elles ont été très techniques et là, ils essayent de développer, enfin, ils se développent, c'est un fait, sur la partie plus management. Je vais découvrir cette année parce que pour le coup, là, c'est l'objectif que je me suis fixé pour 2024 d'en suivre une management donc chez Sens. Donc, je peux pas te dire pour moi ce que ça donne, mais jusqu'à présent, pour moi, j'aimais bien viser celle-ci au niveau technique parce que il y a vraiment, je trouve, un contenu technique qui va être assez structuré, qui va être complet. Et surtout, c'est que le niveau d'engagement personnel que ça demande, pour moi, c'est le plus important que j'ai trouvé. C'est-à-dire que tu transpires pour les obtenir. C'est pas quelque chose où tu peux y aller juste au talent. Là, c'est ben t'as besoin de te farcir des sacrés pavés. Parfois, c'est 5 bouquins de jusqu'à 300 pages. Donc déjà, faut tous les lire. On peut te poser la question sur quasiment n'importe quel mot dans tous les bouquins. Faut se créer des index et après s'y référer. Par contre, une fois que ça tu l'as fait, tu pourras cet index j'utilise tous les jours. Donc, par contre, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je me pose de plus en plus la question chaque année. Par exemple, un contenu technique, sachant que maintenant j'ai plus un travail orienté gouvernance. Bah, est-ce que la formation technique, je la fais plus pour moi, pour me rassurer que j'ai toujours la compétence, les skills techniques pour en pentest, pour ANSI ou autre, ou est-ce que c'est pas vraiment parce que j'en ai besoin?
Ok, bah écoute, hein, je pense qu'on a fait un peu tout le tour, hein, des questions qu'on avait préparées. Juste pour finaliser le podcast, et désolé, on a dépassé encore une fois le temps, désolé pour ça. Mais juste pour finaliser le podcast, est-ce qu'il y a une idée ou je sais pas, un message éventuellement à faire passer? Ou voilà, mettons une idée qu'on n'aurait pas évoquée ensemble aujourd'hui, ou une autre, hein, qui mériterait d'être approfondie un peu plus en détail avant de finaliser le podcast.
Je suis en train de relire mes notes. Pour moi, il y a quand même une chose, enfin, deux points que je voulais aborder, c'est que on est dans un métier où il y a pas mal de personnes qui viennent de tous les horizons, qui font des reconversions et autres. Et je trouve que c'est l'aspect formation en continu, il est très important. C'est-à-dire que faut pas s'arrêter à la formation initiale et à apprendre tous les jours. Et ben, les formations et les certifications, c'est un bon moyen, justement, d'apprendre des choses supplémentaires. Donc, l'ayant fait moi-même, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'encourage. Après, ben, d'être bien clair sur ses objectifs pour pas faire justement des hors-sujets ou partir sur quelque chose qui finalement va pas forcément être approprié et on va pas aller jusqu'au bout. Donc ça, c'était un point. Et l'autre, c'est par rapport à la communauté, il faut vraiment quand même qu'on arrive à instaurer une confiance et que les personnes soient honnêtes. Alors, ce sera toujours difficile parce qu'il y en aura qui vont toujours tricher, mais visez pas une certification juste pour l'avoir sur votre profil, mais pensez plutôt au parcours et à l'apprentissage qui est beaucoup plus enrichissant plutôt que de griller les étapes parce que derrière, ça vient impacter la crédibilité de tout le monde et ça vient alimenter le fait que des personnes trouvent que c'est inutile.
Vas-y, tu voulais rajouter un truc.
Oui, je voulais rajouter que, en fait, vraiment sur la négociation salariale, parce qu'il y a des personnes qui passent une certification en se disant, tiens, bah, comme ça, pour mon futur employeur, ça va me rajouter, je vais pouvoir négocier mon salaire. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément le cas, en tout cas, en Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, oui, en effet, par exemple, tu as une CISSP, alors, tiens, ça va peut-être faire doubler ton salaire. Enfin, je dis des ordres de grandeur comme ça, je ne suis pas certain. Mais ça a vraiment un impact. Alors qu'en fait, je trouve qu'en Europe, c'est plutôt pour passer des filtres. Tu vas passer un filtre RH où en effet, même parfois, c'est des recruteurs qui, comme il y a pas forcément des noms ou des compétences avec des noms bien attitrés, c'est difficile de faire des filtres. Donc, il y en a qui cherchent tout simplement CISSP et comme ça, après, ils trouvent les différents profils et puis après, ils envoient ils vont ficher les personnes comme ça et les contacter. Donc, pour moi, en Europe, les certifs, en tout cas vraiment pour la partie recrutement et salariale, ça va être pour passer des premiers filtres, sachant que derrière, on peut vite être rattrapé par la patrouille si on n'a pas la connaissance, ça se verra en entretien. Mais c'est pas forcément pour l'aspect salaire. Donc, quand les personnes disent, ah oui, mais tiens, t'as passé une nouvelle certif, c'est parce que tu veux changer de boulot. Non, c'est au final, c'est je le fais pour moi et je le fais pour acquérir des nouvelles connaissances.
Ouais, c'est clair, c'est clair. Écoute, je vais après arrêter l'enregistrement, puis après, je te propose un débrief. En tout cas, je te remercie d'avoir pris le temps.
Avec plaisir, bah, merci.
C'est un moment qu'on en parlait, donc au moins, ça fait plaisir. On a pu trouver un créneau.
Exactement, on a eu du mal à trouver un petit créneau.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous n'avez pas écouté la première partie de notre échange, sachez qu'il est disponible dans l'épisode précédent. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, mettez un bon avis, soit directement sur mon site cybersécuritéholdé.fr dans la partie avis des auditeurs ou directement sur Apple Podcast. Déjà un, pour moi, ça fait super plaisir de lire vos avis positifs et en plus, ça permet de faire grandir le podcast en le faisant découvrir à plus de personnes. Pour plus de contenu de curation associé à chaque podcast, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite que vous trouvez soit en description de l'épisode ou sur mon site directement. Je vous remercie et puis passez une bonne semaine.